Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, faut-il enterrer l'austérité? La présentation hier d'un plan franco-allemand de relance de l'économie européenne a mis fin, momentanément, aux doutes sur la capacité de l'Union européenne à s'engager auprès des États qui la composent pour limiter les effets de la crise économique et sociale à venir. Momentanément, en effet, car ce plan, qui n'est pas encore adopté par les 27, demande à chacun des États, par exemple, de suivre, je cite, « des politiques économiques saines », un vocabulaire qui rappelle celui utilisé par cette même Europe au lendemain de la crise grecque. L'activiste et journaliste Naomi Klein craignait fin avril que la facture à payer ne soit celle de l'austérité, mais peut-être l'austérité est-elle un principe économique du monde d'avant? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Yorgos Papakonstantinos, qui est ministre des Finances grecques depuis, il a été ministre des Finances grecques de 2009 à 2011 et il a été ministre de l'Énergie et de l'Environnement entre 2011 et 2012. Il est désormais professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Bonsoir, monsieur Papakonstantinos. Vous êtes avec nous.
Bonsoir.
Avec nous également le philosophe Anselme Liap, professeur aux Beaux-Arts de Sassari en Italie, qui nous a fourni, et nous l'en remercions, un texte pour la conversation mondiale. Au tout début de cette conversation mondiale, dès le début du confinement, Anselme Liap nous a fourni un texte qui résume sa pensée justement sur à la fois l'austérité, la crise et l'économie, la place de l'économie dans nos sociétés. Il nous en parlera dans un instant. Et avec nous également Mathilde Lemoine. Bonsoir Mathilde Lemoine.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po et chef économiste du groupe Edmond de Rothschild et vous avez publié hier sur l'excellent site international Project Syndicate un article, vous avez publié cela avec Bertrand Badré, un article qui résume votre pensée. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous pensez justement de ces politiques européennes pour pouvoir relancer l'économie. Quand on vous lit, Mathilde Lemoine, sur le site Project Syndicate, on se dit, vous étiez dans la confidence, ça n'est pas possible. Vous avez publié cet article hier et il y a beaucoup des points qui sont présentés dans cet article sur la position à tenir pour pouvoir éviter une crise économique en Europe à la suite de la crise du coronavirus, qu'on retrouve plus ou moins évidemment, dans ce qui a été annoncé dans le plan franco-allemand.
Alors effectivement, le timing était assez étonnant, je dois dire, mais on ne l'a pas fait.
Vous étiez dans la confidence, dites-nous.
Non, pour être tout à fait honnête, non. Ce que je trouve vraiment très porteur d'espoir dans l'annonce faite par Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est que on a l'impression que pour la première fois, on essaye de réfléchir à un fonds européen tourné vers l'avenir et qui ne soit pas seulement guidé par le financement des dettes publiques et par la peur de voir les taux d'intérêt remonter fortement. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'est tout à fait nouveau. On comprend que si on veut avoir une chance un jour de rembourser les dettes, il faut plutôt soutenir l'activité économique plutôt que d'essayer de couper les coûts de production et les coûts du travail en particulier. Donc, je trouve que il y a un changement de paradigme qui est porteur d'espoir encore une fois parce que la zone euro, avec le vieillissement qui la caractérise, est entrée dans la crise avec une grande faiblesse économique et s'y ajoute bien évidemment le manque d'investissement privé comme public et le manque d'orientation en faveur de la transition énergétique.
On y viendra sur tous ces points que vous développez dans cet article de Project Syndicate, mais vous y dites dans cet article, l'objectif est de construire un nouvel avenir, pas seulement de restaurer le passé. Ça veut donc dire qu'on aurait tiré les leçons d'une autre crise d'un autre genre, celle de 2008, et que effectivement il y aurait une autre attitude à avoir vis-à-vis de l'arrivée d'une grande crise économique sur le territoire européen.
Alors, l'avantage des crises, c'est que normalement, on essaye d'en tirer des leçons positives et constructives. Donc, je pense que cette initiative franco-allemande est le résultat d'un abandon de la part des Français de leur dogme en faveur des obligations mutualisées qu'ils ont appelées Corona Bonds. Donc, ils ont fait un pas vers les Allemands. Les Allemands se sont rendus compte que tout seuls aussi, ils avaient plus à perdre qu'en essayant d'être solidaires de la zone euro. Donc, on voit qu'il y a une évolution qui est le résultat des leçons tirées de la crise de la dette souveraine et de ses orientations en faveur de l'austérité qui nous ont conduit en partie là où on est. Mais je veux bien être optimiste et c'est important de l'être, mais attention, il va falloir que le Conseil européen soit d'accord avec cette initiative et que les parlements nationaux la votent. Oui. Donc c'est vrai que c'est un premier pas, c'est très encourageant. Mais je crains que le sujet des dettes reste proéminent. Et encore une fois, compte tenu de la faiblesse de la croissance potentielle de la zone euro, on ne peut pas s'attarder sur le seul financement de la dette publique. Ça ne peut pas faire une politique économique.
Oui, on a entendu dans le journal Bertrand Galichet qui nous expliquait effectivement que du côté de Bruxelles, tout le monde n'était pas d'accord. Et par exemple, le porte-parole de la Commission disait que la proposition de Mme von der Leyen la semaine prochaine ne serait pas un copier-coller du couple franco-allemand, du projet franco-allemand. Yorgos Papakonstantinos, est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez été ministre des Finances grecques dans la tourmente entre 2009 et 2011, qu'il y a eu des leçons de tirer justement de cette crise, en particulier de cette crise des dettes souveraines et de cette crise grecque, dans la proposition franco-allemande présentée hier?
Écoutez, chaque crise nous aide à prendre des décisions qui étaient inédites avant. Dans la crise de la dette souveraine, nous avons décidé de soutenir des pays avec bien sûr des conditions attachées. On s'est trompé sur plusieurs de choses, mais on a fait un des pas en avant. Alors ici, c'est vrai, c'est clair, c'est un pas en avant. Mais dans ce genre de texte, il y a toujours quelques mots-clés qu'il faut lire un peu de plus près pour comprendre la nature de ce document et les équilibres.
Vous travaillez à l'Institut universitaire européen de Florence et vous êtes spécialiste de la question de gouvernance, donc vous savez lire justement ce type de traité ou d'accord en tous les cas. C'est plutôt quoi par exemple qu'il faut lire précisément?
C'est plutôt d'avoir été partie du Eurogroupe pendant quelques années qui m'a aidé de lire ce document d'une façon différente. Par exemple, c'est un document qui parle d'une initiative ambitieuse, temporaire, exceptionnelle, avec une date d'expiration ciblée. Donc, temporaire, pourquoi ? Exceptionnelle, pourquoi ? Parce que c'est clair que s'il y a une chance que ça soit voté par le Conseil européen, il faut convaincre des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, le Danemark, qui sont contre une initiative qui touche aussi la dette héritée. Donc, c'est exceptionnel, c'est pour les dépenses qui sont liées à la relance et pour la transition écologique et numérique, et ça c'est très positif.
Et pas pour combler la dette ancienne.
Voilà. Donc, il y a une date d'expiration. C'est ciblé vers les pays qui l'ont besoin, ce qui est très bien. Et ambitieux. Est-ce que c'est ambitieux? Disons que plusieurs d'entre nous auraient bien aimé une somme deux ou trois fois plus que les 500 milliards qui ont été annoncés.
500 milliards d'euros qui ont été proposés, mais il faut ajouter à ces 500 milliards les 550 milliards qui ont déjà été promis par différentes initiatives donc depuis le début de la crise. Ça fait donc
tout
plus
à fait.
De 1 000 milliards.
Et c'est une somme des dépenses qui vont être faites et non pas des instruments financiers. Et ça, c'est important. Donc, ces 500 milliards qui sont inscrits dans le cadre financier pluriannuel, c'est aussi important. C'est un instrument communautaire, et moi je suis très attaché à ça, qu'on n'est pas revenu encore à une décision entre gouvernements qui est en dehors du cadre communautaire, donc ça aussi c'est positif. Et c'est clair que ce sont des dotations, des subventions et non pas des prêts.
Bon,
on va voir. Voilà. Il y aura bien sûr une négociation autour de ça. C'est peut-être une partie deviendra des prêts. On verra bien. Mais c'est sûr que c'est un pas très important en avant. Et c'est la première fois qu'on voit l'Allemagne s'inscrire dans une logique d'une mutualisation de la dette, même si on ne l'appelle pas comme telle, même si ce n'est pas un Eurobonds comme on l'aurait aimé, c'est une nouvelle étape qu'on est en train d'ouvrir.
Hansen Liap, vous êtes avec nous, vous qui êtes philosophe, qui avez beaucoup travaillé sur la pensée de Guy Debord, vous devez être intéressé par les innovations langagières que l'on connaît depuis le début de cette crise, effectivement, et par la lecture de ce qui est dit dans ces futurs accords entre pays pour pouvoir justement permettre la relance économique, mais en même temps, vous vous demandez sûrement, c'est ce que vous nous aviez dit dans la conversation mondiale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, que si au bout du compte, cette question relancer l'économie était une bonne question dans un contexte où il faudrait peut-être une vie plus frugale et peut-être même imaginer que ces questions de développement économique sont une catastrophe à la fois pour les hommes et pour la planète.
Et oui, donc je pense qu'il faudrait aussi placer la question sur un niveau un peu plus général. D'abord, sur ce qu'on vient de dire au niveau donc de nouveaux propositions économiques, mais il s'agit quand même toujours de faire des dettes et encore des dettes. Et donc ça veut dire finalement d'accumuler du capital fictif. Donc et même ici dans l'ordre de 500 milliards, ce serait comme si on créait du rien environ 1000 euros pour chaque habitant de l'Europe, donc bébé inclus. Et donc cela ressemble un peu à un château de cartes déjà extrêmement fragile auquel on tente encore d'ajouter plusieurs étages. Donc ici, après la crise de 2008, on a, de certaine manière, on a tenté de résoudre la crise en écrivant encore un zéro après les chiffres déjà gigantesques en circulation. Maintenant, on en écrit deux zéros. Donc ce sont des chiffres qui ont quelque chose d'absolument irréel.
Mais en même temps, d'une certaine façon, un semi-ab, ça conforte votre idée que le capitalisme est miné de l'intérieur, le capitalisme industriel en particulier, et que justement, il n'y a plus que l'emballement de la dette pour pouvoir lui permettre d'exister encore. Donc, d'une certaine façon, votre vision marxiste de l'économie vous fait dire que, tout compte fait, peut-être le château de cartes va-t-il s'écrouler un jour. Ça n'est pas à souhaiter.
Oui, donc disons différemment de ce qui est certain, donc la crise de la pandémie mondiale n'a pas frappé une économie mondiale qui était en bonne santé pour le reste. Au contraire, on était déjà dans une pleine crise environnementale, énergétique et économique aussi, avec une augmentation très forte des inégalités sociales, etc. Et donc, à certains endroits, donc cette pandémie a été simplement un autre petit coup contre un château de cartes, je le répète déjà, extrêmement brinque-ballon. Et donc, ça pourrait donc aussi être l'occasion, finalement, de se poser quelques questions qui vont au-delà de l'immédiateté économique. Par exemple, de se demander, est-il vraiment souhaitable de relancer la croissance? Est-il vraiment nécessaire de toujours raisonner en termes d'investissement, de travail, sans se poser la question de l'utilité de tout cela? Et j'ai aussi l'impression qu'au début de la crise, et c'était une telle surprise, que même beaucoup d'acteurs étaient comme, certainement disons, secoués pour une espèce de doute. Une habituelle, comme lorsque Macron dit dans sa première allocution télévisuelle, il faut que beaucoup de choses changent. Ou même lorsque Boris Johnson avait dit qu'il avait découvert que la société existe. Donc c'est exactement le contraire de ce que disait son maître à penser Margaret Thatcher, qu'il n'y a pas de société. Et je me rappelle même les Financial Times avaient dit qu'il faut que maintenant les riches payent pour sortir de la crise. Mais comme j'avais aussi dit dans mon article, cela ressemblait un peu aux propositions du capitaine ad hoc du Tintin, qui promet de ne jamais plus boire de whisky s'il sort de la situation présente. J'ai l'impression que les bonnes propositions sont déjà passées. Maintenant, on ne parle que comment sortir de la crise à tout prix. J'avais vu, par exemple, les industriels des matières plastiques ont été les premières de dire, maintenant, il faut, par exemple, il faut abolir la mesure, par exemple, qui nous oblige à renoncer au plastique mono-usage. Donc et maintenant, il est à craindre qu'avec le prétexte de la nécessité économique, au contraire, donc on va abolir même les faibles mesures économiques prévues dans le Green Deal, et au contraire, il y aura une vague d'économie à tout prix.
Ça n'est pas exactement ce que vous pensez, Mathilde Moine, j'imagine, puisque dans votre article pour Project Syndicate, signé ou co-signé par Bertrand Badré, vous dites justement que la condition essentielle d'une relance, vous pensez qu'il faut une relance, contrairement à Anselm Yap, de cette relance, c'est justement de faire un autre bond en avant avec ce Green Deal, avec ce projet vert, donc qui serait le projet de la Commission européenne.
Oui, alors effectivement, on a un problème qui est que toutes les générations veulent s'affranchir du mur de la rareté. C'est ce que Ricardo disait. Et donc, les générations précédentes et la nôtre souhaitent s'en affranchir avec les dettes. C'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. Et ce que je trouve important, c'est que justement, plutôt que d'essayer de s'affranchir du mur de la rareté, c'est-à-dire justement la façon de travailler, le capital et les ressources naturelles, essayer de combiner tout ça, il y a une autre solution, me semble-t-il, qui est de trouver un moyen d'avoir un momentum de croissance un peu supérieur qui évite un appauvrissement des plus vieux comme des plus jeunes. Parce que, comme dans certains pays, la population continue à croître, si jamais on n'avait plus de croissance, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, les personnes les plus âgées donnent 20% de ce qu'elles ont aux plus jeunes qui auront des difficultés à trouver un emploi. C'est un peu la situation japonaise où on a un appauvrissement et une paupérisation de la force de travail. Donc pour éviter ça, me semble-t-il, il est absolument indispensable de dynamiser le potentiel de croissance, et c'est vrai que les économistes, pour ça, alors c'est peut-être un peu réducteur, hein, surtout il y a d'autres dimensions comme le rappelait M. Yap, mais pour ça, les économistes considèrent que l'investissement productif est un moyen de soutenir ce potentiel de croissance et donc d'éviter des formes de redistribution agressive et permettre justement de mieux choisir son sentier de croissance et de limiter la hausse du taux de pauvreté. Et c'est ce qu'on n'a pas fait depuis des années, puisque quand vous regardez l'investissement public, par exemple, depuis 2008, il est 20% inférieur à son niveau observé.
Donc,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le montant d'investissement public en zone euro est 20% inférieur à celui qu'on observait en 2008 avant la grande crise.
D'accord. Bon. En comparaison. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on parle beaucoup des dettes publiques, mais en fait, l'argent public n'a pas servi à dynamiser les fondamentaux de la croissance. Et donc, fait que le poids de la dette apparaît insupportable. Et un des moyens aussi de faire en sorte que le financement de la dette soit plus facile, c'est de redynamiser la croissance un peu plus structurelle, un peu plus fondamentale, et donc de soutenir les investissements publics, mais les vrais investissements publics, pas à la plan Juncker où on annonce des chiffres de 500 milliards et en fait, quand on regarde sur le site internet, il n'y aurait que 70 milliards vraiment signés, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a besoin d'investissements qui soient plus fléchés, qui permettent d'investir en infrastructure, en transition écologique et aussi de soutenir l'investissement privé pour que justement le dynamisme de l'emploi soit un peu supérieur. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il me semble que la zone euro, qui a le poids de son vieillissement, qui a le poids de la dette, plutôt que d'aller vers une paupérisation à la japonaise, a encore les moyens de soutenir une croissance économique soutenable qui, justement, permettrait d'accroître le PIB par habitant. Quand vous regardez le PIB par habitant, qui pour les économistes est une mesure intéressante de l'évolution de la richesse par habitant, en Italie, il est encore inférieur de 7% par rapport au niveau de 2008. Donc forcément, ça crée des tensions, ça génère un appauvrissement et ça engendre une inquiétude face à l'avenir qui est très importante. Donc oui, je pense qu'on peut faire de la croissance autrement et que qui dit dette publique ne dit pas forcément investissement public. Les 10 dernières années l'ont montré.
Yorgos Papakonstantinou, quand vous étiez donc ministre des Finances en plein cœur de la crise dite crise grecque, vous avez donc pu comprendre qu'il y avait des négociations internes au sein de l'Europe et vous en avez subi les conséquences en tant que pays, la Grèce à ce moment-là. Est-ce que vous croyez justement que ce qui a été lancé, ce plan franco-allemand, dont on dit qu'il va être amendé par la Commission, amendé par les pays, et en particulier les quatre pays qui n'en veulent véritablement pas et qui sont très très hostiles à l'usage de ce plan. Là, on peut citer évidemment les Pays-Bas, mais aussi trois autres pays qui sont tout à fait décidés, avec le Danemark ou d'autres, à ne pas accepter ce plan. Eh bien, est-ce que vous pensez effectivement qu'il peut y avoir à la fin, un retour en arrière par rapport à ce qui a été annoncé hier, assez violent, qui ressemblerait à l'austérité que vous avez connue dans les années 2009-2015, au moins?
Écoutez, les crises comme celle de la dette souveraine il y a 10 ans ou celle d'aujourd'hui aident les pays les plus forts et sont un vrai problème pour les pays les plus faibles. Et dans des pays, ils aident ceux qui ont un revenu plus important et sont créent de vrais problèmes pour les gens à faible revenu. Donc, il faut trouver des moyens de rééquilibrer ça. Et quand on parle d'inégalité entre pays, on voit par exemple en ce moment, l'Allemagne peut très facilement soutenir ses entreprises. On a un problème avec le marché interne parce qu'on a enlevé toutes les règles qui existent pour que les pays puissent aider leurs entreprises faire face à la crise, mais à la fin de cela, les déséquilibres qu'on a déjà dans la zone euro seront accrus à cause des différents marges, disons, fiscales des différents pays pour aider les entreprises.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre d'une chronique du Monde, c'était il y a quelques jours, qui était signée Marie Charelle, qui disait « c'est la double peine pour l'Europe du Sud ».
Oui, c'est vrai, et c'est pour cela que ce genre d'initiative, avec des dépenses et avec un fonds au centre de l'Union européenne qui est géré par la Commission européenne et qui essaie de rééquilibrer les pays, les entreprises et les gens qui sont touchés est très très important parce que là où je suis d'accord avec Anselm Jaap, c'est que c'est pas la croissance seulement elle-même, c'est aussi la qualité de la croissance qui est importante. Et donc, si on ne fait absolument rien, les inégalités vont accroître. Et si, par exemple, en voyant en ce moment, le prix du pétrole est effondré. Donc, s'il n'y a pas une vraie... Si on ne revient pas sur le Green Deal...
Ça n'empêche pas d'ailleurs le gouvernement grec d'avoir donné des autorisations de creuser des puits de pétrole sur le territoire grec, en l'occurrence, d'ailleurs.
Oui, mais en même temps, le gouvernement a décidé d'aller plus vite au changement de la clôture des énergies disons traditionnelles en Grèce qu'avant. Donc c'est intéressant comme il y a quelques semaines une enquête qui était sortie qui parle de la solidarité en Europe et qui montre bon, évidemment il y a des différences entre pays, mais ce qui est intéressant c'est que la volonté de solidarité diffère par rapport aux causes qu'elle doit traiter. Donc si on parle de la dette, la solidarité est beaucoup plus faible. Mais si on parle des catastrophes naturelles ou d'une pandémie, comme on a en ce moment, la volonté de solidarité est beaucoup plus forte. Et je crois que, donc, on est dans une situation différente où on peut parler de solidarité d'une façon qu'on ne pouvait pas il y a 10 ans. Il n'y a pas de moral hazard, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de... On ne doit pas punir un pays comme on a puni la Grèce, disons, comme nos créditeurs nous ont punis pour la façon de gérer l'économie pendant des décennies. Et là, nous avons une possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre dans la construction de l'Union européenne.
Ouais. Et Anselm Jaap, justement sur ce point, avant que nous fassions une petite pause, vous dites la question, c'est par exemple de relocaliser de façon radicale les entreprises sur le territoire européen. Vous y croyez véritablement ou effectivement la mondialisation est telle que c'est plus un vieux vœu pieux qu'autre chose, justement pour permettre une croissance économique sur le territoire européen?
Évidemment, les propositions quelque peu radicales sont toujours taxées d'être irréalistes, utopiques.
Ah, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas ce que je dis, mais c'est une question,
non, non.
Quoi.
Non, je pense que vraiment la chose la plus irréaliste est l'idée qu'on peut encore continuer comme tel pendant de longues années. Par exemple, d'abord, alors, croissance, mais pourquoi doit-on croître? En vérité, on produit beaucoup plus de choses actuellement dans le monde. Une grande partie de la production de biens et services sont des choses inutiles et nocives. Donc, il faudrait plutôt réduire drastiquement la production, se limiter aux choses utiles et belles, et les distribuer de manière à peu près équitable dans le monde. Et évidemment, après, donc, ce qui résoudrait aussi le problème de la pauvreté. Vous me dites que c'est trop simpliste, mais me semblait quand même la seule chose.
Ah, j'ai pas dit ça du tout, mais enfin, allez-y, continuez.
Non, en général, je dis pas vous. Non, parce qu'en vérité, donc, ici, donc, sinon, on joue toujours la même comédie du néolibéralisme contre le keynésien, la politique de l'offre contre la politique de la demande, les fourmis du nord d'Europe contre les cigales du sud d'Europe, etc. Mais là, on reste toujours dans une espèce de terrain commun. Et quand même, je vois, il y a quand même une espèce aussi de lassitude croissante de l'opinion publique. Heureusement, face aux présupposés communs de toutes les politiques économiques, et par exemple, on parle souvent aujourd'hui l'économie contre l'écologie, même si peut-être c'est un peu simpliste, mais quand même on commence à comprendre le problème, c'est vraiment ce que nous appelons l'économie en général. Évidemment, par la production, on ne peut pas se dispenser de produire quelque chose, mais ce que nous appelons économie, c'est essentiellement l'art d'investir 100 euros pour en avoir 110 euros à n'importe quel prix. Et donc, cette idée de la croissance même, d'une valeur réalisée à travers un travail, n'importe quel travail, est en train de pousser le monde vers l'abîme.
Et c'est ce que je rappelle que vous êtes un critique, vous faites partie de l'école critique de la valeur, effectivement, et que c'est une grande partie de vos propres travaux, Anselme Gallet. On vous retrouve dans un instant.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que j'étais dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin je l'ai gros sur la patate. Je croque le toit sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'honneur. Tu fais pas le bonheur, procure du plaisir. Et plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile. Donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie. Et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent tu lorgnes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et méchants. T'es parti à la conquête du monde entier. Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds. Mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette. Mais t'es...
Voilà, Javin, le titre Pépette. Nous parlons d'argent depuis le début de cette émission. Argent, flouze, pépette et autres noms donnés justement à ce qui permet de faire circuler la valeur, comme en parlait Anselme Gallet il y a un instant. Vous êtes dans le temps du débat. Nous sommes autour d'une question simple. Faut-il enterrer l'austérité après l'annonce du plan franco-allemand? Nous sommes avec Yorgos Papakonstantinou, qui est ministre, et elle a été ministre des Finances grecques entre 2009 et 2011, avec Anselme Gallet, philosophe, professeur professeur aux Beaux-Arts de Sassari en Italie, et avec Mathilde Lemoine, professeur à Sciences Po et chef économiste du groupe Edmond de Rothschild, autrice donc avec Bertrand Badré d'un article dans Project Syndicate, un site américain de grands éditoriaux et tribunes justement sur la question de ce que doit faire l'Europe face à la crise que nous connaissons. On le sait tout de même, Mathilde Lemoine, que cette décision franco-allemande est une réponse aussi à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui s'était élevée contre la BCE et la politique justement de la Banque Centrale Européenne. Et qu'il y avait un chemin à prendre extrêmement étroit. Il a été tenté justement par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Mais évidemment, il y a toujours cette idée que, en particulier en Allemagne, mais pas simplement, qu'il ne faut pas justement mutualiser ses dettes. C'est ce qui a été pourtant plus ou moins compris dans ce plan franco-allemand. Qu'est-ce que vous pensez de ce chemin étroit qui est emprunté par la France et l'Allemagne aujourd'hui ?
Alors, je le rapprocherai pas de du problème qui lie la Banque Centrale Européenne à la Cour de Karlsruhe pour une raison principale, c'est que l'objectif de l'accord franco-allemand, c'est de sortir de l'idée selon laquelle il faudrait punir les pays du Sud. Les pays du Sud ont fauté parce qu'ils ont développé une croissance qui n'a pas été soutenable, qui s'est avérée non soutenable. Je pense en particulier à l'Espagne qui, lors de la création de l'euro, a utilisé les taux d'intérêt extrêmement faibles pour faire de l'immobilier et donc engendrer une bulle immobilière qui a fini par exploser, plutôt que de développer des programmes d'éducation, de formation continue et encore une fois d'investissement en faveur d'une croissance plus soutenable. Donc il y avait l'idée d'ailleurs défendue par Madame Lagarde quand elle était ministre avant de diriger le FMI, selon laquelle, et on l'a vu, la Grèce devait payer. Et donc je pense que le couple franco-allemand a voulu sortir de ce débat et c'est assez heureux. En revanche, la Banque Centrale Européenne a remis dans le débat cette façon d'appréhender les choses, puisque la présidente de la Banque Centrale Européenne s'est récemment exprimée pour dire que ce n'était pas le rôle de la Banque Centrale Européenne d'éviter que les taux d'emprunt de l'État italien augmentent trop fortement. Et c'est là où on a eu à nouveau cette tension qui est réapparue.
Cette impression voilà. Effectivement de division.
Exactement, et de scission au sein de l'Europe entre les pays qu'il faudrait punir et les pays vertueux. Et donc, il me semble que c'est plutôt pour sortir de ce débat-là que Angela Merkel et Emmanuel Macron ont fait cette proposition qui est extrêmement heureuse.
Alors avec cette phrase d'Angela Merkel, l'Allemagne ne s'en sortira bien que si l'Union se porte bien.
Exactement. Et alors, la Cour de Karlsruhe, donc elle demande quelque chose qui est un tout petit peu différent, c'est qu'elle demande des comptes à la Banque Centrale Européenne qui a utilisé son mandat de stabilité des prix autour de 2% d'inflation, hein, pour justement justifier des politiques monétaires qui jusqu'à présent étaient inédites, d'achat de titres, d'achat de dettes souveraines, d'achat de dettes d'entreprises, etc., etc. Et ce que demande la Cour de Karlsruhe, de mon point de vue, ça a du sens. C'est simplement de mettre en proportion les conséquences des taux négatifs, des taux extrêmement bas, des achats de dettes d'entreprises, au regard des bénéfices engendrés sur la croissance et l'inflation. Et sous prétexte de guerre juridique, en fait, la Banque Centrale Européenne ne veut pas répondre pour ne pas créer un précédent et donner raison au juge allemand. Mais il me semble que sur le fond, les Européens sont en droit d'attendre une évaluation des effets collatéraux de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne.
Anselme Miap, quand vous écoutez cela en tant que philosophe spécialiste de la critique de la valeur et du fétichisme de la marchandise, est-ce que vous vous dites ce sont des discussions qui sont des discussions internes à ce milieu justement de la finance internationale et du financement des États, et où est-ce que justement les citoyens peuvent-ils s'y retrouver dans ces discussions-là?
Mais disons, il y a aussi une extrême contradiction entre le bref terme et le long terme. D'un côté, ce qu'on appelle les décideurs, en général, ils raisonnent toujours en termes de de la prochaine réunion des actionnaires, des prochaines élections et des comptes, des prochains chiffres économiques pour le prochain trimestre. Mais justement, il y a cette impossibilité de prendre des décisions à long terme qui nous mène vers l'abîme. Et on peut presque dire presque heureusement, par exemple, qu'il y a des circonstances qui ont tiré le frein d'urgence. Donc, je viens de lire sur Le Monde, par exemple, qu'il y a une baisse historique des émissions de CO2, donc de 9%. Mm-hmm. Et donc, ce qu'évidemment, aucun Green Deal, aucun conférence climatique internationale, aucun marché du charbon, etc., a réussi à faire, la crise a réussi. Donc, c'est-à-dire, on peut quand même, par exemple, réduire drastiquement la circulation automobile et ne pas en mourir.
Oui, mais on vous dira, il faut relancer l'industrie automobile parce que si on ne la relance pas, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés dans toute l'Europe, par exemple.
Oui, ça veut dire, donc, effectivement, la société, d'un côté, c'est une nécessité absolue pour la société de se libérer de la tyrannie de la voiture individuelle. Mm-hmm. Donc, il faudra relocaliser les industries automobiles pratiquement et abandonner, même assez vite, cette production. Et si les personnes, ici, simplement, il y a moins de production, ça veut aussi dire que les personnes pourraient vivre en travaillant moins et en ayant quand même le nécessaire. Donc, évidemment, dans tout le chantage à l'emploi, et ça marche seulement jusqu'à ce qu'il y ait dès qu'il faut vivre, il faut d'abord avoir réussi à vendre sa force de travail pour n'importe quelle chose. Mais si la société s'est limitée à produire des choses vraiment nécessaires, ou même belles, oui. Et il y aurait beaucoup de... seulement une petite fraction du travail qui aujourd'hui est exécuté.
Oui, c'est donc limiter la production à la seule nécessité de la vie humaine, selon vous, Anselme Yap. Yorgos Papakonstantinou, quand vous étiez donc ministre, mais aujourd'hui où vous donnez des cours à l'Institut universitaire européen de Florence, des cours sur la gouvernance internationale, vous voyez, j'imagine, cet énorme écart, pourrait-on dire, entre ces discussions qui sont des discussions indispensables. Il ne s'agit pas de faire un populisme de mauvais aloi entre justement les dirigeants pour pouvoir réfléchir à plus long terme. Et puis la vie commune, pourrait-on dire. La Grèce a subi effectivement la perte de beaucoup de ses biens publics, mais aussi a subi aussi des retraites qui ont été entachées de coupes énormes pour les retraités, par exemple. Tout cela, j'imagine que c'est compliqué de faire le lien entre ces grandes décisions internationales de l'Eurogroupe et puis, par ailleurs, la vie commune.
C'était toujours un grand problème, comment traduire le discours de politique dans les instances européennes avec les craintes des citoyens dans nos pays. Un vrai problème. Comment faire ça? Mais,
Et pourquoi? C'est parce que la langue, parce que c'est une autre langue, parce que c'est compliqué à comprendre, parce que au bout du compte,
je crois que c'est les deux, et parce que parfois c'est complexe et c'est pas toujours facile de comprendre comment ça se traduit dans des aspects qui touchent le quotidien. Mais prenons un exemple, et si vous me permettez de revenir sur la question du plan franco-allemand. Mmh. On ne peut pas en même temps dire que la BCE va au-delà de son mandat et de l'autre côté refuser un effort fiscal central européen. On ne peut pas dire les deux. Soit on laisse la BCE faire le boulot pour tout le monde, ce que la BCE elle-même dit qu'elle ne devrait pas faire, Madame Lagarde l'a dit, Mario Draghi l'a dit à Modèle. Sinon, si on veut que la BCE reste dans ce mandat de politique monétaire, quelqu'un doit faire la politique fiscale. Et le plan franco-allemand, je crois, essaye de répondre à ce grand dilemme, cette contradiction. Et c'est là qu'il faut maintenant expliquer comment cet argent va être dépensé, qui va être le bénéficiaire, comment on va aider les entreprises, comment on va aider l'emploi, comment on va aider la transition.
Mais pour cela, il faudrait une opinion publique européenne relativement unifié, mais quand on va débattre de savoir s'il faut faire le pacte vert, peut-être du côté de la Hongrie, on ne sera pas d'accord. S'il faut développer la 5G de façon générale, comme ça a été dit hier, eh bien, il y aura des oppositions de certains écologistes en France ou en Europe. L'intelligence artificielle n'intéresse pas tout le monde, etc. Donc on voit bien que dès qu'il y aura des investissements, il faudra aussi négocier avec des opinions publiques européennes qui ne sont pas unifiées. Elles sont généralement rarement unifiées, mais enfin, disons qu'elles ont quelquefois des valeurs qui sont plus ou moins communes.
Mais c'est comme ça que l'Europe a toujours fonctionné et va continuer à fonctionner. Mais en ce moment, nous avons un vrai problème, c'est que dans plusieurs pays, l'Italie est un exemple parfait, il y a une vraie crainte que l'Europe ne laisse tomber
dans
cette crise. Voilà. Et on a vu qu'au début, une réticence de plusieurs pays européens avec des choses très simples comme l'exportation des biens liés à la santé. Donc il faut répondre à ça, parce que si on ne le fait pas, on donnera marge de manœuvre aux populistes qui n'ont pas les vraies réponses, mais qui posent les bonnes questions.
Mathilde Lemoine, est-ce que vous pensez que, au bout du compte, très brièvement pour conclure cette émission, que ce terme d'austérité est désormais un terme qui est derrière nous, ou est-ce que, au bout du compte, malgré tous ces plans de relance dont on parle, eh bien, il y aura toujours cette menace de l'austérité qui pèsera sur les discussions en Europe?
Cette menace continuera de peser parce que malheureusement le plan qui a été annoncé, même si je le salue, il est d'abord insuffisant et ensuite il va limiter la chute d'activité dans des secteurs comme le tourisme ou l'aéronautique où c'est difficile d'appliquer immédiatement des critères de transition écologique. Et donc il me semble que les problèmes liés à l'endettement vont ressurgir et malheureusement la question de l'austérité et de la baisse des coûts, que ce soit en termes de dépenses publiques mais aussi en coût du travail, devrait ressurgir et je crains que ça accroisse les tensions et les inégalités.
Merci à vous, Mathilde Lemoine. Je rappelle que vous êtes professeure à Sciences Po, chef économiste du groupe Edmond de Rothschild et que vous avez publié sur le site Project Syndicate, donc avec Bertrand Badré, un long article en anglais, donc publié hier autour de ce que devrait faire l'Europe à vos yeux pour pouvoir sortir de la crise. Merci à vous, Anselme Yap. Je rappelle que vous êtes auteur, entre autres, de la Société Autophage aux éditions La Découverte, mais aussi des Aventures de la Marchandise. C'était en 2003 et que vous avez eu la gentillesse de nous confier un texte qui est lisible sur le site de France Culture à la page Une conversation mondiale. Et merci également à vous, Yorgos Papakonstantinou, et bonne continuation depuis Athènes où vous vous trouvez et où j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions sur le changement de pied, du moins symbolique, de l'Allemagne vis-à-vis de l'aide aux autres pays les plus en difficulté en Europe. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe du temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Manon Prisset à la technique aujourd'hui. Élise Lehe à la réalisation. Olivier Bétard, et vous pouvez lire, puisque nous parlions avec Anselme Yap de la conversation mondiale et du texte qu'il avait confié donc à cette conversation mondiale sur le site de France Culture, le dernier texte publié, celui de l'architecte italien Pier Paolo Tamborelli, qui vient juste d'être publié sur notre site, mais également lire tous les autres textes. Il y a maintenant presque 50 textes donc qui ont été écrits depuis les États-Unis, l'Argentine, le Chili, l'Europe ou ailleurs, et qui nous ont été confiés pour réfléchir à ce que fait la crise du coronavirus à nos sociétés. Demain, eh bien, nous poserons la question du ralentissement ou de l'accélération sous la question de la crise.